Ils sont arrivés lundi 18 septembre comme prévu à 19h et quelques minutes heure française. iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10. Manque à l'appel macOS Sonoma, mais on le savait, il arrivera mardi prochain, le 26 septembre. Sans doute décorrélé d'ailleurs de la sortie de nouveaux Mac, puisqu'on attendait les M3 avec Sonoma, mais ce sera probablement pour plus tard. Pour l'instant, on peut se concentrer donc sur ces versions 17 et sur la nouvelle version de WatchOS. Alors, on va peut-être commencer sur ta proposition, Fabrice, pour parler de ce qui est commun à plusieurs OS. C'est une bonne idée. Oui. Ça évitera qu'on se répète. Alors, est-ce que tu peux nous aider à y voir clair sur ce qui évolue de manière un peu simultanée sur plusieurs OS ?
On va faire une petite liste. C'est un sens, peut-être, dans un sens d'importance, peut-être plus pour moi que pour d'autres. Il y a des choses qui m'ont plus frappé que d'autres. Il y a des choses que j'utilise donc depuis déjà longtemps, puisque malgré les bons conseils de Ellie, j'ai quand même installé tout ça il y a pas mal de semaines déjà.
Tu avoues.
Oui, j'avoue. Et j'avoue aussi...
Et moi, encore pire. Il y a encore plus longtemps. Voilà,
François, ça a été pire. Mais je pense que François, tu pourras avouer aussi à Ellie qu'il y a eu de temps en temps quelques petits soucis quand même de stabilité.
Tout de suite, les grands mots.
Ouais, un petit peu. Voilà. Il faut bien avouer que sur l'iPhone, de temps en temps, il y a des choses qui plantouillaient un peu quand même. Maintenant, tout va bien, y compris donc dans Sonoma que j'utilise depuis longtemps là, et ouais, qui est aussi arrivé en version quasi finale. Donc, ce que j'utilise le plus dans tout ça, ce sont les profils dans Safari. Alors voilà, ça, c'est la nouveauté dans Safari. Il faut savoir que ça arrive dans Sonoma quand on l'installe, mais au final, il va y avoir disponible une mise à jour de Safari pour Ventura aussi, qui permettra d'utiliser les profils. Et alors, qu'est-ce que c'est les profils ? C'est des choses qui existent déjà, en fait, dans tout ce qui est basé sur Chromium, donc Chrome, Edge, Brave, etc. C'est-à-dire, en gros, on peut simuler d'avoir plusieurs navigateurs indépendants installés sur son Mac ou son iPhone ou son iPad, mais tout ça en utilisant quand même uniquement Safari. Donc, ça permet d'avoir... Les profils sont indépendants chacun des autres. Les uns des autres, ça veut dire qu'on peut être connecté à un compte Google, par exemple, dans un profil, et à un autre compte Google dans un autre, et ça ne se mélange pas, comme si c'était deux navigateurs différents. Alors moi, je trouve ça extrêmement pratique, d'un point de vue perso et pro, pour pouvoir justement être connecté à des comptes de gestion, d'administration pour mes clients, et puis à un compte perso pour moi, etc. Aussi, c'est pratique pour ne pas mélanger sa navigation habituelle avec des sites qui pourraient être un petit peu plus curieux, par exemple Facebook ou YouTube, etc., etc. Donc on peut avoir un profil uniquement pour Facebook, par exemple, si vous allez encore sur Facebook, ce qui n'est pas mon cas, mais au moins vous êtes sûr que malgré tous les progrès de Safari en ce domaine pour éviter de faire fuiter tout un tas d'informations quand on va sur Facebook ou sur des sites comme ça, on a un profil, on n'utilise ça que pour Facebook et du coup on est sûr que ça sort pas, c'est vraiment totalement étanche. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment pratique, j'ai adopté ça immédiatement. Je recommande, ce qui fait que du coup j'utilise beaucoup moins d'autres navigateurs sur mon Mac notamment que ce que je ne faisais avant. Voilà, donc ça, les profils, c'est vraiment vraiment très bien, et avec un avantage quand on utilise les profils de Safari plutôt que ceux de Brave ou de Chrome, c'est que les profils se synchronisent entre tous ces appareils via son compte iCloud. Ouais. Donc quand on crée un profil sur une des plateformes, hop, c'est répercuté sur les autres. C'est hyper pratique, y compris aussi pour partager les extensions. On peut choisir de partager des extensions entre différents profils ou pas. Et on peut aussi indiquer à certains sites de s'ouvrir dans certains profils. Donc j'ai un profil pour mon compte Google avec lequel je vais sur YouTube. Et donc quand je clique sur un lien YouTube sur dans n'importe quel profil, ça va aller s'ouvrir dans celui qui est connecté à mon compte Google. Donc là, il y a plein de trucs qu'il faut explorer dans les préférences de Safari pour jouer avec les profils. C'est déjà très complet. C'est étonnamment complet, je trouve, pour une nouvelle fonction qui vient d'apparaître.
Ok, donc les profils dans Safari. Good point.
Profils dans Safari. Petit truc dans Safari. Alors là, c'est plus pour Sonoma. Je prends un peu d'avance sur la semaine prochaine. Mais on a l'habitude d'ajouter sur l'écran d'accueil de l'iPhone ou de l'iPad un raccourci vers un site web pour le transformer en application finalement ou quasiment, bah, c'est maintenant possible dans Sonoma, ou ce sera possible dans une semaine, pardon, on peut ajouter une icône dans le doc qui va transformer un site web comme dans une application. C'est intéressant aussi si finalement c'est lié au profil. Je pense que derrière, sous le capot, ça crée un profil spécifique qu'on ne voit pas dans Safari, mais qui est au niveau du système et qui rend l'application totalement indépendante de sa navigation aussi. C'est vraiment très pratique. Quelque chose qui est commun à toutes les plateformes, la gestion des mots de passe. Ça aussi, c'est un très gros morceau parce que c'est beaucoup plus complet qu'avant. Il y a une des choses, on en a souvent parlé ici, hein, qui fait que j'utilise encore un gestionnaire de mots de passe spécifique plutôt que celui, le trousseau avec l'arme, comme il s'appelle sur Mac, mais donc les mots de passe dans toutes les plateformes. C'était notamment le partage et la création de groupes pour partager des mots de passe avec d'autres utilisateurs sans avoir à partager tous ces mots de passe. C'est maintenant possible avec la gestion des mots de passe dans tous les nouveaux OS. Et on peut faire des partages de groupes, et pas forcément dans des groupes familiaux, on peut partager des groupes de mots de passe, donc des sous-groupes de tous ces mots de passe avec n'importe qui ayant un compte iCloud naturellement. C'est vraiment très bien, ça rend tout ça beaucoup plus pratique. C'est une des réponses aussi à une des problématiques soulevées concernant les passkeys, les clés de sécurité. Je pense qu'il faudra qu'on redétaille ça dans une prochaine émission, mais c'est ce nouveau mode de connexion à un site web qui permet de se connecter finalement sans mot de passe, en utilisant un de ces appareils connus et reconnus par exemple, et donc on se connecte en scannant un QR code et en validant avec son empreinte digitale ou Face ID par exemple. Et c'était la question de savoir quand c'est apparu, mais comment on va faire pour partager ça. Puisqu'il n'y a pas de mot de passe, on ne peut pas dire, tiens, pour aller te connecter à ce site-là, il y a un identifiant, un mot de passe, comment on va faire en famille, par exemple. Et bien voilà, Apple a donc la solution avec ses groupes de partage. C'est très bien fait, c'est très bien. Et en plus, on peut, alors je ne sais pas exactement si c'est nouveau, mais je n'avais pas encore vu ça, une extension mot de passe iCloud pour tout ce qui est Chromium, donc Chrome, Edge, Brave, etc. Ouais. Ce qui fait que ce qu'on reprochait beaucoup au trousseau iCloud, pendant que François se mouche pour les auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur.
En silence.
C'était que quand on confie ses mots de passe au trousseau iCloud d'Apple, du coup, si on utilise Chrome ou un autre, on n'y a pas accès. Alors, en fait, il y a une extension dans Chrome et donc dans d'autres navigateurs qui permet d'accéder à ces mots de passe stockés dans son trousseau iCloud quand on est sur Mac, sachant que les mots de passe sont déjà partageables dans n'importe quel navigateur sur iOS et iPadOS. Donc ça fait vraiment de cette gestion de mots de passe, nouvelle formule chez Apple, quelque chose de très complet. Ouais. Il ne manque plus finalement qu'une application indépendante. Qui se rendrait la chose un petit peu plus pratique à utiliser. Si on veut juste consulter les mots de passe, là il faut se rendre dans les réglages. Donc, on peut faire ça à l'aide d'un raccourci ou des choses comme ça, François ?
Non, c'est ce que j'allais dire. On peut le faire à l'aide d'un raccourci. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un petit raccourci sur Internet qui, du coup, j'ai sur mon Mac qui se met dans la barre des menus là-haut et j'ai juste à cliquer dessus et automatiquement, ça le lance. Et pour peu que vous ayez une Apple Watch, en fait, l'Apple Watch va déverrouiller directement l'élément et ça vous permet de l'afficher rapidement. Non, je te rejoins, Fabrice. Ça. C'est vraiment pour moi une des grosses nouveautés très sympas. Mais ce serait bien de pouvoir créer une vraie application. Mais Apple va, à mon avis, vont finir par le faire, parce que là, quand on voit l'importance qu'a pris cette nouveauté-là sur les derniers OS, je serais pas étonné que ça arrive. Et je pense que ce jour-là, OnePassword et consorts, ils vont se mordre les doigts pour parce que les utilisateurs Mac sont quand même très friands de ces applications de partage de mots de passe.
Ouais. Mais donc, ça se passe toujours dans trousseau et dans mots de passe.
Oui. Oui, toujours. Donc on peut laisser accessible dans les préférences de Safari quand on est sur Mac, et sinon dans les réglages système aussi sur Mac et dans les réglages tout court pour iPadOS et iOS, il y a une section mot de passe. Et sur iOS et iPadOS, il y a aussi c'est bien d'aller dans cette section-là. Il y a plein de choses en fait pour consulter les mots de passe, pour choisir si on a plusieurs gestionnaires de mots de passe installés, choisir celui ou ceux qui vont remplir automatiquement les mots de passe quand on essaye de se connecter à quelque chose. Et puis ça me permet justement de faire un petit détour par aussi une autre nouvelle fonction super pratique en ce qui concerne les mots de passe, c'est que on se connecte souvent à des services en ligne qui demandent un deuxième facteur d'authentification que parfois on reçoit par SMS.
Ouais, ouais.
Et là, depuis les nouvelles versions, les SMS, quand on a utilisé le code à 6 chiffres, le SMS va être effacé automatiquement. Et ça fait le ménage tout seul, et ça, c'est formidable. Parce que,
ça évite d'avoir des pages de messages avec juste des codes de...
Bah oui, qui servent à rien et voilà. Donc c'est bien parce qu'en plus parfois on essaie de se connecter et puis ça marche pas tout de suite, on le reçoit pas tout de suite, alors on relance et puis du coup le code il est utilisable qu'une fois, donc on sait pas trop lequel on a utilisé. Ouais. Donc forcément là ça fait le ménage de celui qu'on a utilisé. Ça passe par celui c'est cette fameuse fonction qui existe depuis plusieurs versions où quand on reçoit un message avec un code via le clavier de l'iPhone par exemple, il y a marqué en provenance de message. Ouais. Et puis ça remplit tout seul ce code. Ouais. C'est vachement bien. Ça marche aussi avec les codes reçus par email à condition naturellement d'utiliser l'application mail d'Apple. Mail, si on utilise autre chose, ça marchera pas.
Bien sûr.
Voilà.
Bon, François, tu approuvais cette nouveauté, ce ménage automatique. Ah oui,
c'est topissime parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'authentification à deux facteurs. Et c'est vrai que les messages, si vous êtes un peu comme moi, on a tendance à se laisser assez vite submerger. Et là, au moins, on sait que le ménage va être fait tout seul. Et puis, tu vois, je ne m'étais même pas rendu compte que ça le faisait aussi avec Mail, Fabrice. Pourtant, j'utilise Mail, mais je m'en étais jamais rendu compte.
Ça, c'est nouveau.
Ça sera
à
tester.
Ouais.
Ouais, c'est nouveau, on est d'accord.
Ouais, c'est nouveau. Ouais.
Ça, c'est bien aussi.
C'est bien ce qui me semblait.
C'est presque plus compliqué ou plus long d'aller ouvrir mail, de trouver. Enfin voilà.
Ouais.
Ouais, si on reçoit beaucoup de mails, c'est beaucoup de spam aussi, c'est pas forcément simple. Donc très très bonne chose. Et ça c'est automatique, il y a rien à faire.
C'est automatique. Alors j'en ai vu des fois qui disaient qu'il fallait aller. On trouve si on veut vérifier que cette fonction est activée, on va dans les réglages, dans mot de passe, dans options des mots de passe, et ensuite il y a une option qui s'appelle code de validation. Et il faut activer éliminer automatiquement.
Ah bah
c'est là qu'on on bénéficiera de ça.
J'y vais pendant que tu en parles, tu vois.
Voilà.
Si j'arrive à trouver. Donc tu m'as dit mot de passe. Alors option
des
mots de passe.
Rappeler que
éliminer automatiquement. Oui, par défaut c'est pas activé. Donc je coche en vert éliminer automatiquement et alléluia. Merci Fabrice. Non mais voilà, à partir des gestes des choses à faire quand on installe iOS 17 par exemple comme c'est mon cas sur mon iPhone. Formidable.
Ben oui.
On continue. J'adore ça.
Alors
comme
on continue.
Noël.
Alors, autre cadeau, les widgets interactifs. Youpi. C'est-à-dire.
Alors sous quelle forme ça se présente et ça sert à
alors,
quoi
ça se présente. Donc ça. Les widgets sont arrivés avec iOS 15, si je ne m'abuse. C'est-à-dire donc les widgets, au début, c'était un peu plutôt des grosses icônes finalement qui étaient capables d'afficher des informations, mais qui n'étaient pas interactives. C'est-à-dire que si on appuie dessus, on lance l'application. Donc c'est comme une grosse icône.
Ouais.
L'intérêt, c'était que de temps en temps, on n'avait pas besoin de cliquer dessus. Par exemple, si c'était la liste des prochains rendez-vous, il suffisait de consulter, donc de lire ce qu'on avait sur son écran d'accueil pour se rappeler qu'on avait un rendez-vous dans une demi-heure. Là, des widgets interactifs, ça va être donc la même présentation, mais si, pour reprendre l'exemple d'un calendrier, on peut faire défiler ses prochains rendez-vous jusqu'à la fin de la journée, par exemple, sans ouvrir l'application, ce sera à l'intérieur du widget. Et il y a plein de catégories de widgets qui sont concernées. Les widgets de l'application maison, par exemple, on peut choisir d'avoir des commutateurs pour des objets connectés, des lampes qu'on a pour les allumer ou les éteindre directement depuis son écran d'accueil. On peut utiliser le widget de l'application podcast. Ça, c'est quand même vachement intéressant de pouvoir mettre en lecture ou pause depuis le widget plutôt qu'autre chose. Je reparlerai de ça dans mon coup de cœur en fin d'émission. Il y a même pour l'application contact, on peut avoir mettre un contact dans un widget à l'écran et on peut choisir de faire apparaître des boutons pour choisir pour ce contact si on veut l'appeler ou lui envoyer un texto. Voilà, donc ça rend ces trucs un petit peu plus interactifs. J'ai une petite réflexion quand même, il doit y avoir une limite, c'est-à-dire que j'ai vu des démonstrations de widgets interactifs qui prenaient quasiment tout l'écran et qui deviennent finalement de véritables applications. Donc je pense qu'il va falloir trouver un compromis, parce que s'il y a un widget trop complet, finalement, autant lancer l'application, ce sera aussi bien. Voilà.
Mais et juste du petit coup, rappel, quand on n'a jamais utilisé de widget, comment est-ce que ça se trouve, où, comment ça s'active, comment...
Alors, quand on est sur l'écran d'accueil, on fait un appui long n'importe où pour faire danser ces icônes comme on a l'habitude de faire, et on va avoir un signe plus qui s'affiche en haut à droite. Et puis, voilà, François nous mime le gigotage des icônes, il est gentil. Ouais. C'est pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Et puis, on va faire plus et on va choisir dans la bibliothèque des widgets. Donc, les widgets, là, beaucoup de plus en plus d'applications ont des widgets qui sont liés. Donc, ils sont liés à aux applications qu'on a, et ensuite on peut choisir. Benjamin nous montre ça à l'écran pour voilà. François.
Ouais, moi par exemple j'ai un widget Tesla, et du coup ça me permet d'avoir le visu directement de mon autonomie, etc., etc. De si la voiture est fermée ou si j'ai oublié de l'ouvrir, et ainsi de suite. C'est quand même bien sympa et bien pratique. Et aussi le widget que j'utilise moi, c'est le widget de batterie, parce que quand vous avez l'Apple Watch, vous avez les AirPods et compagnie de brancher, ou de connecter au téléphone, vous avez tous ces éléments là et c'est quand même plutôt pratique. Voilà. Après, la seule limite, je te rejoins Fabrice, c'est que il faut pas en mettre trop, parce qu'à un moment, le fait d'en avoir trop, je trouve que ça tue l'information. Il faut vraiment trouver le juste milieu.
Oui, parce que les widgets, ils viennent se mettre parmi les apps. Donc, et comme ils sont plus gros, on arrive vite à saturer l'écran quand même.
Ouais, alors justement, si vous utilisez
en termes d'espace occupé, j'aime bien rappeler que tout à gauche du premier écran d'accueil, il y a toujours cet écran qui s'appelle, il me semble toujours en français, l'écran aujourd'hui. C'est une sorte de reste d'ancienne version d'iOS. Mais si on est sur le premier écran d'accueil et qu'on fait encore un mouvement de glissement de gauche à droite, on va faire apparaître cet écran supplémentaire, et dedans on peut mettre des widgets. Je trouve ça très pratique. Je rappelle ça parce que du coup c'est un écran dans lequel il n'y a pas d'icône, c'est pas un écran d'icône, c'est un écran où on peut mettre ce qu'on veut, et donc c'est intéressant pour avoir une collection de widgets peut-être un peu plus gros, justement, qu'on ne voit pas tout le temps, mais auquel on a pourtant un accès facile.
Ok, parfait, les widgets interactifs. Passerait-on à message ?
Alors, on va passer dans message. Il y a des choses. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a les stickers. Alors, iOS 16, où avec la détection automatique des formes pour faire un détourage, c'est-à-dire prendre un personnage, par exemple, ou un animal domestique qui est sur une photo, on fait un appui long. L'iPhone ou l'iPad va détecter automatiquement le contour de l'objet ou du personnage qui était à l'écran, et puis on va pouvoir en faire quelque chose. Sauf que dans iOS 16, c'était pas très pratique. Là, si on fait ça sur le visage de quelqu'un, ou donc son chien, son chat, tout de suite l'iPhone, l'iPad va proposer de rajouter ce sticker à une bibliothèque de stickers qu'on va donc ensuite pouvoir facilement utiliser dans le message pour agrémenter tous les textos qu'on envoie. C'est très bien. Et en plus, si la photo dans laquelle on fait ce détourage est une photo, une live photo, je crois que c'est comme ça qu'on dit même dans les versions françaises des OS, le sticker va être animé, et ça, je trouve ça assez mignon tout plein, quoi. Et ça sert à ça, la grosse puissance des puces qu'on a dans nos téléphones, de faire du détourage animé. C'est trop fort. Voilà.
On passe à l'appli photo, Fabrice.
Ouais, alors, et notamment, justement, pour continuer à reparler peut-être des animaux qu'on a chez soi, c'est que on avait déjà les albums automatiques de reconnaissance de visage de personnes. Eh bien, on a maintenant la reconnaissance automatique de nos animaux domestiques. Ça marche très bien avec mes deux chats. Ça a l'air de rien, mais quand on a des animaux domestiques, on en prend tout plein de photos, comme avec les photos de ses enfants quand on en a, et pouvoir faire des albums automatiques, c'est très bien, et c'est pratique et chouette. Et toujours dans Photo, vous vous rappelez peut-être, ça fait 2-3 versions qu'on peut faire des recherches par mots-clés. Donc iOS, iPadOS fait de l'indexation automatique pour ce qui permet de chercher des photos de montagne, des photos de forêt, des photos de voitures, etc. Et maintenant, la recherche par mots-clés s'effectue aussi dans les vidéos. Et même c'est très fort, c'est-à-dire que c'est lié à aussi la reconnaissance de texte automatique qui est arrivé, le texte en direct qui est arrivé avec iOS 16, où quand il y a des éléments textuels dans une photo, le système va les reconnaître et donc on peut chercher en mode texte l'intérieur d'une photo pour trouver un numéro de téléphone par exemple. Il va faire la même chose dans une vidéo, donc vous cherchez une vidéo d'anniversaire et si dans une vidéo il y a un bandeau par exemple joyeux anniversaire au-dessus de quelqu'un qui reçoit son gâteau, la vidéo va se placer à l'endroit où on voit le bandeau joyeux anniversaire. Ça aussi je trouve que c'est trop fort comme c'est détail. Fou. Voilà.
Incroyable.
Ouais, totalement. Voilà pour ce que j'ai retenu pour photo. Pour FaceTime, des choses. Alors, ça, c'est un truc que moi, j'attendais depuis très, très longtemps. On a tous l'habitude, quand on fait un appel téléphonique et que ça ne répond pas en face, de laisser un message. C'est automatique. Ça va
de sur pouvoir, en tout cas.
La messagerie. Ouais. Et ben voilà. Et ben on peut le faire maintenant, enfin, avec FaceTime aussi. Que ce soit en mode audio ou en mode vidéo, si la personne en face ne répond pas, au bout d'un certain nombre de sonneries, ça doit être 4 ou 5, je ne sais plus, il y a un bouton qui s'affiche « Laisser un message » et à ce moment-là, on peut enregistrer un message audio ou un message vidéo en fonction de l'appel qu'on a lancé et le correspondant pourra le lire un peu plus tard. Et puis il y a aussi, alors ça c'est pas uniquement FaceTime mais ça concerne la vidéo, ça c'est au niveau du système globalement, quand on utilise une application de visio que ce soit FaceTime ou Zoom ou Skype ou tout ce qu'on veut, il y a des réactions gestuelles, donc si on met un pouce en l'air, ça va faire une animation derrière. Les deux pouces en l'air, par exemple, ça déclenche un feu d'artifice pour dire qu'on est content. Il y a des petits cœurs rouges qui se mettent à voler si on fait cœur avec les mains, etc. Voilà.
On n'a pas l'air débile quand on fait ça.
Alors, si un peu, mais c'est rigolo quand même.
Il n'y a pas le feu d'artifice, c'est pour ça qu'on a l'air débile. C'est pour ça, parce qu'on n'est pas dans le FaceTime.
Quand est-ce que ça arrive sur iCam ? Ce serait chouette, on pourrait se faire des réactions comme ça pendant l'émission.
Bah oui, on va leur suggérer, t'as raison.
Bah oui, c'est assez bizarre.
On vous fait des mimes, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image, là, on est, ouais. c'est la minute à mimes, pas regarder. Voilà.
Alors, c'est le côté,
c'est
un peu une réponse à Zoom, hein, parce que si on utilise Zoom, certains savent peut-être, depuis quelques versions de Zoom, ça fait pas mal de temps maintenant, dans Zoom, il y a une fonction pour lever la main, justement, on pouvait cliquer pour lever la main pour demander la parole. Bah là, du coup, si on lève la main, Zoom reconnaît qu'on lève la main et du coup, ça va prévenir l'interlocuteur que quelqu'un d'autre veut parler. Bah, c'est un peu pareil, voilà, ça sert à ça.
Ok, donc ça, c'était FaceTime.
Voilà.
Il nous reste trois nouveautés un peu universelles, on va dire, entre les OS.
Exactement, trois petites catégories. Quelque chose qui concerne les PDF. Toutes les plateformes vont reconnaître des PDF avec des zones à remplir, des champs à remplir comme dans un formulaire, et va proposer de remplir automatiquement les zones reconnues et dont l'appareil a les informations, comme un formulaire sur le web qui est capable de remplir votre nom, votre prénom, et toutes les informations, par exemple, contenues dans votre fiche de contact. Ça sera pareil dans PDF. Alors c'est pas quelque chose que j'ai essayé encore, donc je ne sais pas. Par exemple, on a tous rempli des formulaires CERFA avec des champs à remplir qui sont déjà des champs actifs dans un PDF. Ouais. Je suis pas très sûr. Je ne sais pas. Peut-être que vous savez si iOS, iPadOS et macOS c'est même capable de transformer des champs qui sont visuellement sur le document mais pas forcément actifs. En champs actifs pour les remplir quand même. Je serais pas étonné que oui, mais je ne suis pas formel sur le sujet. Et toujours en ce qui concerne les PDF, c'est la capacité de... On peut importer un PDF dans une note, dans l'application Note, et ça n'empêche pas de faire des annotations au stylet à l'intérieur du fichier PDF, qui seront donc, si j'ai bien tout compris, sauvegardées dans le fichier PDF, ce qui permet ensuite de renvoyer le fichier PDF à d'autres gens quand on fait des relectures ou qu'on fait une signature manuscrite. C'est quand même bien pratique. Voilà. Et puisqu'on parle de notes, allons tout de suite vers notes. La nouveauté principale, me semble-t-il, c'est de pouvoir créer des liens entre les notes. La version précédente permettait de créer des comme des hashtags, des mots-clés pour pouvoir faire des recherches facilitées dans toutes ces notes. Et là, on peut même faire des liens. Donc l'idée, c'est presque de créer. On fait un dossier partagé, par exemple, dans une équipe, et on peut se créer un wiki dans l'application Notes. Ça aussi, ça fait partie des choses. C'est des choses qui, petit à petit, les applications Notes et Rappel, en fait, ont énormément progressé. Celle d'Apple, je veux dire, depuis plusieurs versions. Et donc, les concurrents comme Obsidian, Notion et tout un tas d'autres ont de moins en moins de champ, d'attrait, ouais. Quoi.
Bah oui.
Voilà. Apple avance petit à petit quand même en enrichissant tout ça.
Et puis, une nouveauté fondamentale dans Plan.
Ouais.
Qui plaît alors, à Ellie, j'en suis c'est-à-dire... sûr.
Ah, alors, oui. Bah, Ellie nous en avait déjà parlé en fait parce que ça existe donc dans Google Maps peut-être quasiment depuis les débuts, depuis des années. Mais en oui. tout cas, c'est la possibilité de sauvegarder des portions de plans, donc de cartes en mémoire pour pouvoir les lire hors ligne, ce qui est super pratique pour pouvoir les consulter quand on est connecté à rien, et notamment sur un iPad Wi-Fi par exemple, qui est plus connecté quand on est en voiture, mais qui permet quand même du coup d'utiliser le mode de navigation même sans être connecté, en utilisant le grand écran de l'iPad. C'est quand même vachement bien.
Je vais tout vous dire, il y a des années j'utilisais un Windows Phone, pour vous dire, hein, uniquement pour avoir la navigation sans connexion quand j'étais aux États-Unis.
Oui. Ben oui. Mais oui, parce qu'en plus, à l'époque, les forfaits étaient ultra chers.
Ben oui.
Et donc, faire la navigation...
Ça pompe du réseau, hein, ça pompe de la connexion quand tu dois télécharger des bouts de cartes. Ouais. Hein. Donc ça, c'est une super nouvelle. Voilà pour les nouveautés qu'on retrouve dans tous les OS. Super tour d'horizon, merci Fabrice. Ben, on va maintenant entrer dans le détail des OS séparément. On va commencer par iOS 17 dans un instant.